Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat des grandes voix avec ce soir Catherine Ney et Michel Cotta. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Julien.
Et on débute évidemment par ces nouvelles mesures sanitaires annoncées il y a quelques instants par Olivier Véran. Pas franchement de mesures fortes, simplement des indications pour les jours et les semaines qui viennent. Marquées notamment par le retour de la concertation, c'est la grande nouveauté. Les maires des grandes villes ont été reçus par le Premier ministre Jean Castex. Le gouvernement est sur la ligne de crête.
Je peux vous annoncer qu'on a aussi des situations territoriales dans lesquelles on commence à constater un frémissement, un début d'embellie sur le plan sanitaire. Certes timide, mais ça compte. Je pense notamment à Bordeaux, à Nice ou même à Marseille, même si, je le dis tout de suite, les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés, et que les risques sanitaires et de surcharge hospitalière sont encore bien trop importants. Enfin, il faut prendre les signes d'espoir quand ils viennent. C'est un encouragement, en fait, à poursuivre. C'est un encouragement à tenir.
Voilà, Olivier Véran qui annonce, le ministre de la Santé, donc, que vous avez entendu à l'instant, qui annonce également, c'est une dernière minute qui vient de nous parvenir, que la région parisienne pourrait passer en alerte maximale dès lundi, avec peut-être des nouvelles mesures en conséquence. On pense évidemment au confinement des bars, des restaurants et des cafés, comme c'est déjà le cas dans la métropole d'Aix-Marseille. Alors d'abord, peut-être sur l'approche général. Pas de nouvelles mesures restrictives à ce stade. Jean Castex a d'ailleurs reçu, je le disais, les maires concernés aujourd'hui à Matignon. Le gouvernement a visiblement retenu la leçon de la cacophonie marseillaise. Catherine Ney.
Oui, il a retenu la leçon parce que le Premier ministre avait parlé de décentralisation du Covid, d'une gestion qui serait faite par les maires et les préfets, pour être démenti 8 jours après par Olivier Véran, évidemment en concertation avec lui. Donc on voyait qu'il y avait un tâtonnement, un changement de pied qu'on ne comprenait pas. Bon, mais aujourd'hui, il faut bien voir que si le Premier ministre a reçu les maires des grandes villes, c'est pour faire de la pédagogie avec eux. Mais moi, une phrase qui m'a frappée tout à l'heure dans la bouche du ministre, le ministre Olivier Véran a dit « c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités ». Ce qui faisait dire d'ailleurs il y a quelques jours au maire d'Angers, Christophe Béchu, que certaines décisions en matière sanitaire sont l'apanage de l'État et n'ont pas vocation à
c'est
être concertées.
Mais on sent quand même, Michel Cotta, d'une manière générale, une approche différente et peut-être une stratégie plus globale différente. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de changer sans le dire et de prendre le contre-pied avec la protection de l'économie française au détriment peut-être du sanitaire?
C'est évident. D'abord, le gouvernement mesure le degré d'acceptabilité de ces mesures. C'est ça qui a été le plus important. Parce qu'en même temps, c'est vrai, Catherine a raison de dire, moi aussi j'ai été alertée par la phrase, c'est à l'État de prendre ses décisions. D'ailleurs, entre nous, à qui on reproche les décisions? À l'État. Donc c'est vrai que c'est lui qui est responsable. Mais il y a sûrement la prise en compte donc, de l'acceptabilité et surtout le refus d'une deuxième contamination, au fond, d'une deuxième
confinement.
On voit bien que c'est ça, au fond, la peur. C'est pas tellement l'occupation des lits, encore que ce soit une préoccupation. C'est pas tellement les patients qui ne se font pas opérer du cœur pendant ce temps-là. Oui. C'est aussi le fait qu'on ne peut pas mettre le pays une deuxième fois
en arrêt. Oui, on sent que le discours est en train de changer. C'est un peu...
Je ne sais pas s'il change dans la forme, vous avez raison.
C'est un peu un changement de pied quand même. Parce que la semaine dernière, à ce même micro, Olivier Véran annonçait unilatéralement la fermeture des bars et des restos à Marseille. Aujourd'hui, c'est la concertation presque théâtralisée. C'est-à-dire qu'hier, on nous a annoncé les maires vont être reçus par le Premier ministre Jean Castex. Aujourd'hui, on a entendu ses maires, Martine Aubry. Donc on sent qu'il y a une volonté de concertation qui est mise en scène. Et la semaine dernière, on nous disait « on ne peut plus attendre ». Aujourd'hui, on nous dit « on va attendre et temporiser ». C'est quand même un changement total.
Mais je crois que ça évolue au jour le jour, parce que si demain, certaines régions sont en alerte maximale, autre que Marseille ou Lac-Guadeloupe, et par exemple Paris...
Mais
eh bien,
si
là,
on veut être logique, Catherine Ney, Marseille devrait être confinée pour les bars et restaurants, comme ça a été le cas à Marseille la semaine dernière, parce que les trois indicateurs que met en avant le gouvernement sont tous dans le rouge écarlate.
Oui. Alors donc, dans le fond, pour les restaurateurs qui attendaient ce soir, ils ne savent rien, parce que ce soir, ils peuvent continuer à ouvrir leurs établissements, mais peut-être que lundi, mardi, ça pourrait changer. Donc, à la fois, on voit bien que le gouvernement est sur une corde très raide, parce que, je veux dire, à la fois, il dit c'est à nous de prendre les décisions, parce que les maires et les préfets seraient incapables, de toute façon, mais je veux dire, ça va être très difficile, parce qu'on voit bien que l'économie, en ce moment, je veux dire, comment le plan de relance va-t-il être appliqué? Et surtout, on voit bien que les gens ont peur, ne consomment plus. Ils avaient mis de côté plus de 100 milliards, mais pour l'instant, ils ne les dépensent pas. Et là, je veux dire, on risque
surtout,
une catastrophe.
C'est ce que disait Michel Cotta, la confiance s'érode. C'est-à-dire qu'on est dans le niveau le plus bas qu'on ait connu depuis le début de la crise sanitaire.
Oui, mais je vais vous dire, par exemple, qui a envie de prendre la place d'Olivier Véran? Vous voyez, je veux dire, tout le monde lui donne des leçons, voilà. Mais qui, c'est pour ça qu'il va rester longtemps et jusqu'à la fin de la crise, quitte à peut-être nuire définitivement à sa carrière politique. Mais aujourd'hui, c'est quand même une situation très très difficile. Surtout qu'il va dans les hôpitaux voir des médecins qui tous ont un avis différent sur ce qu'il faut qu'on vienne faire ou pas. Donc c'est un métier, mais qui est très très difficile. On le plaint parce que. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, c'est sujet à polémique.
Mais on voit bien d'ailleurs que c'est sujet à polémique dans tous les pays, européens en tout cas, et aussi en Amérique. On voit bien.
Pardon de le dire à chaque fois.
À part l'Allemagne.
En Suède aussi. En Suède, qui ont fait un choix philosophique différent et qui aujourd'hui sont.
C'est une philosophie différente. C'est faire confiance aux vieux pour qu'ils s'isolent et qu'ils prennent le moins de risques possible. C'est une espèce de ségrégation, mais c'est une ségrégation volontaire.
Oui.
Mais je ne suis pas sûre qu'en France, vous voyez, les réflexes soient les mêmes qu'en Suède.
Oui, qu'on peut appliquer la méthode suédoise, où il y a 5 millions d'habitants, à un pays qui en compte 65 ou 75
c'est possible. Ce que vous dites est très pertinent, absolument. Dans un pays, en plus, qui a une construction de la famille différente, où les gens vivent plutôt seuls et non pas, comme chez nous, dans la famille nucléaire, on appelle ça. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, 18h40, avec les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on continue de parler de ces mesures sanitaires et de la conférence de presse qui continue de se tenir en ce moment au ministère des Solidarités et de la Santé d'Olivier Véran, avec les grandes voix, Catherine Ney et Michel Cotta. Alors, on évoquait... à l'instant, les personnes fragiles, qui sont celles qu'on doit évidemment protéger en premier pour les semaines à venir lors de cette crise sanitaire. Mais Emmanuel Macron a aussi évoqué aujourd'hui les jeunes, la jeunesse. Il était au congrès de BPI France. On l'écoute.
Je veux vraiment non seulement dire à notre jeunesse que j'ai conscience des sacrifices qu'on lui a demandé ces derniers mois et qu'on lui demande encore, mais qu'elle croit en une chose, c'est qu'on est tous conscients, et moi au premier chef, qu'on lui doit quelque chose. Et qu'on sortira de cette crise, et je m'en porte garant, en étant encore plus au rendez-vous de ce qu'on lui doit. On ne peut pas sortir de cette crise en ayant juste plus de dettes financières qu'on lui laissera, une dette climatique qu'on n'aura pas réglée, et une espèce de morosité qu'on va lui laisser.
Voilà, Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le changement de paradigme, avec l'enjeu économique qui est en train de.
On pense par exemple, vous vous rappelez qu'il avait, il y a 15 jours, le président de la République, il y a 3 semaines, avait morigéné presque Véran. Parce qu'il avait demandé en Conseil des ministres, il avait dit justement qu'il fallait prendre des mesures. Au fond, moi je crois que c'est plus l'attitude de personnel du président de la République qui change par rapport à ça. Plutôt que l'attitude de son gouvernement et en tout cas de son ministre de la Santé. Il a quand même eu un moment où il s'est dit « Non, on ne peut pas réimposer la fermeture des bars comme on le fait à Marseille. » Et puis on l'a fait. Et puis on l'a fait une semaine plus tard.
Alors, il y a quelqu'un qui a fait une tribune aussi, qui s'appelle Esther Duflo, c'est la prix Nobel de l'économie, et qui a une stratégie assez différente. Pourtant, elle a un regard économique sur aussi cette gestion de crise. Et ce matin, au micro d'Europe 1, elle a dit ceci.
Malheureusement, on est dans une situation où, pour éviter le passage de l'épidémie des générations jeunes qui n'en souffrent pas trop aux générations plus âgées et aux malades chroniques, etc., qui en souffrent beaucoup plus, il faut faire un choix. Donc, soit on arrive à les séparer, par exemple en disant aux gens qu'ils n'ont pas le droit de se rendre visite chez eux, soit on se dit que c'est très difficile et à un moment, dans ce cas-là, il faudra mettre un stop à l'épidémie avant qu'elle bascule.
Voilà, un stop à l'épidémie avant qu'elle bascule, autant dire un reconfinement avant Noël. Catherine Ney.
Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis, parce que je ne sais pas. Et je me dis, au nom de quoi, Madame Duflo, qui n'est pas spécialiste, c'est un avis comme un autre. Moi je ne sais pas si je le partage, parce que je m'interroge et je n'ai pas la réponse, vous voyez. Donc, mais ça veut dire aussi qu'elle pense que d'ici Noël, eh bien, le virus circulera toujours, qu'on n'en viendra pas à bout et que dans certaines régions, ça sera plus fort que d'autres.
C'est une certitude quand même. C'est une certitude. On court après un lièvre qui va vite, peut-être trop vite. On en parlera tout à l'heure avec le patron de Sanofi qui sera notre invité.
Et longtemps, qui court vite. Et longtemps.
Et longtemps.
Oui, moi, je suis exactement comme Catherine. Je ne sais pas. Moi, j'admire quand même ces gens qui affirment. Oui, peut-être qu'on y arrivera. Hein. Je ne dis pas du tout qu'on n'y arrivera pas. Mais enfin, ça devrait être la dernière des solutions. Et en tout cas, on entend bien à la conférence qui vient de se passer que chacun espère un tassement du virus, pas une disparition, c'est sûrement non, mais en tout cas un tassement, y compris, donc on l'a dit, à Nice et à Marseille. En revanche, sur Paris... Sur Paris,
et on attend des décisions dimanche, nous dit à l'instant Olivier Véran, sur Paris.
Mais donc, sur Paris, c'est plus inquiétant.
Voilà, ça sent plutôt un reconfinement des bars et des restaurants dans un premier temps, et on verra pour la suite, parce que c'est vrai que la ligne de crête est assez ténue entre reconfinement total, confinement social aussi, qui ne pourrait ne pas dire son nom, c'est-à-dire travailler... Télétravail peut-être, aller à l'école, mais limiter au maximum les interactions sociales. Et peut-être d'ici Noël, le retour de la limite des 100 km.
Oui, pourquoi pas. Non, mais je veux dire, tout peut arriver.
Je ne dis pas que c'est souhaitable.
Ce soir, on ne sait rien. Ce soir, on peut s'attendre à tout, au pire et peut-être au mieux, mais on ne sait rien. Donc, c'est très difficile de faire des plans sur la comète. C'est très difficile pour le gouvernement, parce que vous voyez, il dit quand même qu'à Marseille, où ça allait très mal, avec des mesures barrières, avant même la fermeture des bars et tout ça, il y avait déjà un taux d'incidence qui avait baissé. Vous voyez
en termes de communication, vous vous rendez compte, il y a quelques jours, et Olivier Véran disait non, à Marseille, il n'y a pas d'amélioration.
Oui, parce qu'il y avait deux jours d'arrêt.
Alors que la mairie de Marseille disait, mais si, il y a une amélioration.
On a quand même 15 jours, on voit bien qu'on a les 15 jours très difficiles devant nous. Et c'est ces 15 jours où on verra si les masques barrières, finalement... Ça nous sort d'épaisseur, ou si les masques barrières...
Bon, nous, en tout cas, ici, dans le studio, on est bien protégés, on a tous nos masques.
Oui, c'est vrai, heureusement, personne ne nous voit.
Si certains vous évitaient un confinement localisé, ça serait déjà pas mal. Alors, les incertitudes, il y en a aussi du côté des Républicains. Qui pour incarner LR en 2022? On en parle dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, on est toujours avec les grandes voix, Catherine et Michel Cotta. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe du côté des Républicains. Qui pour sauver le parti? Alors, évidemment, les prétendants ne manquent pas. Xavier Bertrand, Rachida Dati, on parle aussi de Valérie Pécresse, pourquoi pas François Baroin. Et tout cela alors que le parti n'a toujours pas fixé le mode de désignation. Pourtant, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, lui, a une solution.
J'appartiens, moi, à une famille politique. Oui. Voilà, une grande tradition gaulliste. Oui. LR. Eh bien, si demain, LR n'a pas de candidat, LR met la clé sous la porte. J'interroge les sympathisants, j'interroge les militants. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Est-ce que ce que veulent nos militants, nos sympathisants, c'est le choix de quelques-uns sur un nom ou un autre? Moi, ce que je veux, c'est le suffrage universel.
Bien, c'est la bonne option, c'est une primaire, Catherine Ney?
Non, mais on sent en ce moment que chez les Républicains, il y a, chez certains, la tentation de se dire, de toute façon, on n'a pas cet être moteur qui va nous propulser de l'avant. François Baroin n'ira pas, il n'a pas toujours dit, mais on le sait qu'il n'ira pas. Bon, alors, il y a des noms que vous avez donnés, mais personne n'imagine qu'il y a un sauveur qui se profile et qui fait l'assentiment de tous. Parce qu'on voit bien aussi que chez des électeurs de LR, il y a comme ça un peu d'Édouard Philippot mania. Hein. Un peu ça, alors qu'il n'est pas candidat. Donc, ils se disent, il faut quand même qu'il y ait des candidats pour montrer que... Par exemple, Rachida Dati, elle ne sera pas candidate. Mais c'est pour montrer qu'il faut résister.
Elle a dit qu'elle serait candidate. Elle l'a dit dans le Times.
Oui, elle l'a dit. Oui, mais enfin, sa vraie stratégie, c'est de dire... Pour dire aux hommes, écoutez, il faut y aller, il faut dire qu'il y aura un candidat, parce qu'il faut qu'il y ait un candidat, sans ça, le parti mourra. Oui. Mais cela dit, quel sera, il ne faut pas se presser, quel sera le contexte dans 6 mois? Où est-ce qu'en sera la France?
C'est la question que j'allais vous poser d'abord. Est-ce que c'est le bon timing pour parler de ça? Parce qu'il y a les Français qui sont préoccupés par la crise sanitaire, par la crise économique. Est-ce qu'ils ont vraiment en tête 2022?
Franchement, ils n'ont pas intérêt. Michel Cotta. Les partis politiques, en général, et LR en particulier, n'ont pas intérêt à trop... bousculer les choses, c'est vrai. Il faut qu'ils se donnent un peu de temps tout en existant. Alors évidemment, ça donne à l'intérieur de LR une sorte de compétition. On voit très bien qui veut de Bruno Retailleau, c'est d'abord lui-même, et qui n'en veut pas, c'est tous les autres. On voit bien les compétitions, mais à tout prendre, se décider trop tôt, et d'ailleurs avec qui, serait une erreur. Et
tous les pilotes de rallye automobile savent que quand on fait chauffer le moteur trop tôt, on est vite grillé. Donc,
en revanche, pour LR...
J'aime bien l'analogie. C'est François Fillon qui disait ça.
En revanche, pour LR, c'est quand même pas un mauvais moment, hein, parce que les sénatoriales ont plutôt été tout à fait...
Ils disent attention au régional. Tout va dépendre aussi comment ça se passe dans les régions. Ouais. Et même si ça va mal dans les régions, eh bien certains pourront même vouloir se venger sur les élus, les sortants. On ne sait pas ce qui va se passer.
Tout le monde attend les régionales,
on ne se presse pas.
Mais quand Bruno Retailleau parle d'une primaire, alors que... Qui a laissé de si bons souvenirs. Pourquoi pense-t-il que c'est la bonne solution pour trouver le
bon
candidat?
Parce que s'il y a 5 personnes qui sont résolues à aller à la bataille, ça divise le nombre de voix. Donc à un moment donné, il faut bien choisir quand personne ne s'impose. Au fond, pendant très longtemps, on a eu des gens qui sont imposés. Après, on a dit, ah oui, mais maintenant, quand même, il faut que les partis deviennent plus démocratiques, alors il faut faire des partiels. Et les partiels, on s'est aperçu que pour... un parti, un mouvement comme LR, qui est un mouvement autour d'un chef généralement, ça n'était pas une bonne solution.
Et est-ce que c'est le candidat qui définira une ligne politique ou est-ce qu'on doit d'abord définir une ligne politique et après choisir le candidat?
En ce moment, faute de chef, les Républicains travaillent à bâtir un projet. Mais je veux dire, un projet, ça se bâtit sur des données économiques. Qu'est-ce qu'on a en caisse?
Avec quoi?
Qu'est-ce qu'on peut promettre? Comment on peut faire rêver les Français? Il y a une telle distribution, quoi qu'il en coûte, là. Mais comment, je veux dire, d'ailleurs, c'est vrai pour tous les partis. Qu'est-ce qu'on peut promettre aux Français dans l'état actuel de la France? Quelle sera la France dans un an, dans un an et demi, dans deux ans, au moment de la présidentielle?
Alors si, il y a les écologistes qui parviennent à se faire entendre et à proposer.
Il y a écologistes et écologistes. Il y a ce que disait un sénateur l'autre jour, une écologie de la croissance et une écologie
de la décroissance.
Donc il faut d'abord savoir quelle écologie. Et ensuite, on a bien vu que les municipales avaient sûrement fait entrer les Verts. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme erreur?
Non, mais le vrai problème des LR, c'est que l'espace est pris par Emmanuel Macron.
Entre Emmanuel Macron et par Marine Le Pen. Hein.
Même si
on peut dire quand même que le mouvement national est en récession un peu.
On peut se risquer un pronostic
sur
le candidat pour 2022 de chez LR? Vous voyez qui vous?
Ben non, mais moi j'ai pas de pronostic parce que franchement j'y vois pas clair. Et en tous les cas, ceux qui s'avancent, je veux dire, c'est pas des gens disent tiens c'est lui quoi.
On est comme les médecins.
Il
faut pas trop faire de pronostic parce que ça, en ce moment ils sont toujours déjoués.
Merci à toutes les deux. Merci.